France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Ce qui était pour moi bouleversant à l'époque, c'était ces hordes interminables de gens qui marchaient sur la route. C'est ce qui m'a conduite à transporter de plus en plus de monde avec ma voiture, ce qui était illégal.
Durant les dernières décennies, on avait pourtant constaté une espèce de renaissance des droits de l'homme au Mexique. Mais cet élan a été stoppé net, notamment par l'explosion de la violence dans le pays, qui a changé les priorités.
Mes parents ont été contaminés au mercure. Ils sont morts. Tous mes frères ont aussi été contaminés et en sont décédés.
Il enquêtait sur le droit au logement pour la Commission égyptienne des droits et libertés. Le 11 juin, au Caire, Ebrahim Ezzeldine a été enlevé par des agents de sécurité et sa famille est restée sans nouvelles pendant 167 jours. Il est aujourd'hui accusé de terrorisme. Au Mexique, José Adrián, 14 ans, allait à l'école quand il a été arrêté et torturé. Ses parents ont dû s'endetter pour payer l'amende qui a permis de le libérer. Les policiers n'ont pas été inquiétés. Quant à Sarah Mardini et Sean Binder, qui secouraient des migrants en Méditerranée, ils risquent 25 ans de prison pour trafic d'êtres humains. Comme chaque année, à l'approche de la Journée internationale des droits de l'homme, France Culture s'associe à la campagne d'Amnesty International, 10 jours pour signer. Pendant 10 jours, l'ONG appelle à se mobiliser en faveur de personnes dont les droits sont bafoués. Signer une pétition, écrire une lettre aux autorités, faire connaître via les réseaux sociaux ces cas de persécution, d'abus de pouvoir ou de discrimination, autant de façons de manifester son soutien et de devenir, même modestement, un défenseur des droits humains. Signé pour sauver des vies, c'est un magazine coordonné par Marie-Pierre Véraud, avec les reportages de Pascal Guéricola, Angélique Coronis, Alix Hardy et Martin Roux. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons Cécile Coudriou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente d'Amnesty International France, nouvelle édition donc de cette opération 10 jours pour signer. Cette année, vous avez voulu alerter sur la situation de jeunes en danger, l'occasion aussi de souligner l'implication de la jeunesse dans la défense des droits humains.
Exactement. Après les femmes l'an passé, qui étaient à l'honneur pour de très bonnes raisons, cette année nous sommes ravis de mettre vraiment en lumière l'engagement des jeunes. Vous l'avez dit, parfois victimes eux-mêmes de violations, nous en reparlerons, mais aussi et surtout un sacré moteur pour le changement, hein, des agents du changement aujourd'hui. Et donc nous avons vraiment eu à cœur de rendre hommage à cet engagement, que ce soit pour la cause du climat, que ce soit pour défendre les libertés, la dignité humaine. Les enfants et bien sûr les jeunes sont au rendez-vous. Donc c'était important pour nous de demander à tous les citoyens et citoyennes de France, mais aussi du monde entier, de venir en aide à Amnesty International pour pouvoir les soutenir, pour pouvoir soutenir leur démarche en faveur des droits humains.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un élan? Est-ce que les jeunes se mobilisent de plus en plus?
Oui, je pense qu'en effet, loin du cliché d'une jeunesse qui devient individualiste, consumériste, etc. Moi qui suis enseignante à l'Université de Paris 13, je peux vous dire que au quotidien, je suis face à une jeunesse absolument concernée par les enjeux du monde, qui a envie de faire changer des choses, qui a envie de s'engager de manière extrêmement concrète aussi, qui allie très bien la réflexion avec l'action. Et c'est justement pour cela qu'une ONG comme la nôtre peut vraiment apporter aussi des réponses à ces envies de canaliser une énergie, à une envie de faire une différence, que ce soit avec des outils technologiques, mais aussi sur le terrain, avec toutes sortes d'événements, y compris avec la culture, y compris avec le rire et avec l'amitié. Car Amnesty International, c'est vraiment ça, c'est pouvoir se mobiliser pour des causes parfois très graves, des causes parfois même tristes, voire dramatiques, mais en même temps avec une conviction chevillée au corps qu'on peut faire une différence.
Alors Marie-Pierre Véraud, vous avez coordonné ce grand reportage pour lequel vous avez sollicité 4 de nos correspondants et vous nous emmenez d'abord en Égypte.
Oui, sur les traces d'Ibrahim Ezzeldine, son cas est emblématique des disparitions forcées qui marquent le régime du président Abdel Fattah el-Sissi. Ce jeune chercheur enquêtait sur le droit au logement pour la Commission égyptienne des droits et libertés. Il a été enlevé en juin dernier, détenu au secret pendant 167 jours. Martin Roux, notre correspondant au Caire, s'est rendu dans les locaux de l'ONG pour laquelle il travaillait.
Voilà, c'est ça, le son bureau. Là, vous voyez, par exemple, les règlements sur la construction des bâtiments.
Donc vous laissez volontairement l'état de...
Oui, dans son même état, on n'en a pas eu besoin, de toute façon. On n'a pas eu besoin d'un bureau additionnel, de toute façon, depuis, quoi. Et on espère que quand il sera libéré, il retournera à son bureau, quoi.
Mohamed Lotfi est le collègue d'Ibrahim Azzeldine. Il dirige la Commission égyptienne pour les droits et les libertés, l'une des rares ONG de défense des droits humains encore présente en Égypte.
Ibrahim travaillait sur les expulsions forcées des maisons, des bidonvilles qui sont développées ou rasées parfois. Ibrahim a 26 ans, la plupart des gens qui travaillent ici ont dans les 25-26 ans. C'est la génération qui s'est intéressée aux affaires publiques depuis 2011, après le départ de Moubarak, et qui s'est engagée dans les droits de l'homme ou politiquement dans les deux années qui ont suivi 2011. Puis en 2013, après le coup, on a établi la commission. Et donc la plupart des gens qui sont joints à la commission aujourd'hui, ou même qui travaillent dans d'autres ONG des droits de l'homme en Égypte, c'est un peu cette génération-là qui a vu l'opportunité manquée de 2011 et qui attend ou qui espère qu'il y aura une autre opportunité pour réussir cette fois.
Quand Ibrahim Azzeldine commence ses recherches sur les bidonvilles du Caire, il a seulement 24 ans, il sort tout juste de la faculté d'architecture. En Égypte, le sujet est sensible. Éradiquer les bidonvilles est l'une des priorités affichées du président Abdel Fattah al-Sissi. Des quartiers entiers sont démolis, les habitants expulsés à la périphérie du Caire, et quand ils expriment leur colère, ils sont violemment réprimés. Le sujet est absent des médias, Ibrahim Azzeldine est l'une des voix qui en fait l'écho. Le 11 juin dernier à 23h, des hommes armés appartenant aux forces de sécurité débarquent à son appartement. Pour alerter l'opinion, Mohamed Lotfi retrace dans une vidéo l'enlèvement de son collègue, minute par minute.
Il dormait quand des policiers en armée sont arrivés pour l'arrêter depuis chez lui. On le prend dans une voiture, la voiture se dirige dans un endroit inconnu pour lui, environ 45 minutes de chez lui. Là-bas, il est monoté et forcé à rester avec les bras en haut pendant 4 jours. Si ses bras tombent, on le tabasse. Et donc il reste dans son local là pendant 3 mois et demi, où il est forcé à faire des confessions que lui-même ne se rappelle pas, tellement il devait signer des papiers alors qu'il n'avait pas dormi. Il s'est fait arrêter le 11-12 juin. Le mandat d'arrêt, il est daté du 25 novembre. Il est présenté au procureur le 26 novembre. Et toute la période, les 6 mois au milieu, entre juin et fin novembre, c'est comme s'il n'avait jamais existé.
Les disparitions forcées sont presque quotidiennes. Elles sont devenues une marque de fabrique du régime d'Al-Sissi. D'abord à l'encontre des membres des Frères musulmans, considérés comme une organisation terroriste. Ces disparitions forcées visent désormais de manière systématique des figures de l'opposition et des activistes de la société civile. Après avoir disparu pendant 167 jours, Ibrahim Azzeldine est présenté devant le bureau du procureur de la Sûreté de l'État. Il est accusé de terrorisme et de diffusion de fausses nouvelles. Pour l'instant, aucun procès n'est programmé. Il est maintenu en détention provisoire. Cette période peut théoriquement durer jusqu'à 150 jours, car la législation antiterroriste confère au procureur des pouvoirs normalement accordés au juge. En réalité, le procureur dépasse même ce délai jusqu'à parfois plusieurs années. Selon Amnesty, ce système judiciaire parallèle a emprisonné plus de 1700 personnes en 2018. C'est 3 fois plus qu'au début du règne d'Abdel Fattah al-Sissi. Et même les avocats qui continuent de les défendre peuvent être arrêtés. C'est le cas il y a quelques mois de la célèbre avocate Marie Nour El-Masri, arrêtée au sein même du tribunal. C'est pourquoi l'avocat d'Ibrahim Azzeldine n'a pas voulu s'exprimer. Sur l'autre rive du Nil, dans le quartier résidentiel de Doki, un immeuble abrite l'une des places fortes de la jeunesse engagée. Au 6e étage, un appartement converti en bureau open space. Une vingtaine de journalistes travaillent ici. Le site d'information Madamas est le dernier média indépendant et critique. Il y a 2 semaines, le scénario qu'a connu Ibrahim Azzeldine se répète. Sans mandat, des hommes armés font irruption dans la rédaction. Pendant 3 heures, les journalistes sont retenus, interrogés. Lina Atala, la fondatrice du site, et 2 autres journalistes sont arrêtés, menottés et embarqués vers un lieu inconnu. Ils sont finalement relâchés 2 heures plus tard.
De ce qu'on a reconnu de la petite fenêtre de cette camionnette dans laquelle on était. Et on a compris qu'on était en chemin vers l'établissement de la sécurité nationale, qui est le corps sécuritaire, un des corps sécuritaires les plus importants, les plus souverains en Égypte. Je sentais que c'est fini, on fait ce genre de truc, c'est pas tellement anormal qu'on finisse en prison pour un an ou deux.
Ce truc, comme le dit Lina Atala, c'est un article qui a eu l'effet d'une bombe. On y décrit le pouvoir grandissant du fils du président Al-Sissi au sein de la sécurité d'État.
On s'attendait toujours à avoir un raid dans notre bureau. Et le fait que c'est arrivé, ça nous a soulagés parce que c'est arrivé déjà. Donc on a vu de quoi ça a l'air. On a tellement préparé à ce moment, qu'est-ce qu'on va dire, comment il faut faire, comment être calme, comment respirer. On s'est préparé tellement à ce scénario. Bon, on n'a pas pu appliquer toutes ces formations qu'on a eues, mais en même temps, le fait que ça s'est arrivé déjà, on a vu de quoi il s'agit et ça a passé, tu vois. Donc, tu trouves des moyens de survie là, après la crise.
Madame Asr est un produit de la révolution de 2011. Cette jeune rédaction s'est formée 2 ans plus tard pour répondre à une urgence, couvrir avec rigueur et en toute indépendance le coup d'état militaire qui installe alors Al-Sissi au pouvoir. 6 ans plus tard, ce média risque de fermer et d'emporter avec lui un espace d'expression unique dans le pays.
Madame essaye d'avoir une imagination politique alternative dans un moment où c'est très difficile d'imaginer. On a décidé de rentrer au bureau aujourd'hui, de commencer à faire notre travail normal et de voir si on a tellement peur de telle façon à ce qu'on n'arrive pas parfois à publier comme avant. Donc c'est alarmant, il faut penser qu'on ne peut pas continuer. Et pour répondre très directement à cette question de qu'est-ce que c'est quand on ne se sente pas voulu ici, pour moi c'est aussi clair que ça, je sens qu'il faut que je parte si Nada n'existe pas.
L'exil ou la prison, c'est l'alternative pour de plus en plus de chercheurs, avocats et journalistes.
Martin Roux, au Caire, invité de grand reportage, Cécile Coudriou, présidente d'Amnesty International France. Alors, au-delà du cas d'Ibrahim Ezzeldine, Cécile Coudriou, Amnesty dénonce le recours abusif à la législation antiterroriste en Égypte qui permet de poursuivre en justice des opposants.
Exactement, c'est en fait un prétexte pour faire taire toute dissidence. C'est vraiment une forme de terreur, comme on connaît malheureusement dans d'autres pays, au nom d'une lutte antiterroriste. Et finalement, on permet aux autorités de surveiller, de traquer et de punir dans des conditions effroyables, dans les prisons notamment. Donc c'est vraiment extrêmement préoccupant et il faut absolument qu'il y ait des recherches, comme le fait Amnesty International et d'autres ONG, il faut qu'il y ait des preuves, car le principe même de ces disparitions forcées, de ces emprisonnements arbitraires, c'est le silence, c'est le fait de les plonger dans l'obscurité et essayer de faire en sorte qu'on les oublie. Donc il est important justement de mettre en lumière ces situations et de les dénoncer encore et encore avec des preuves et de demander aux autorités de faire pression sur l'Égypte à chaque occasion. Car c'est la communauté internationale, bien sûr, qui a aussi une responsabilité si elle se tait.
Et c'est en Égypte que se trouvait le jeune Ouïghour que vous soutenez quand il a disparu. Il s'agit de Yili Yassidjang Rehman. Le gouvernement égyptien a arrêté quelques 200 Ouïghours et en aurait renvoyé certains en Chine à la demande de Pékin.
Oui, c'est tout à fait révélateur déjà de la puissance de la Chine pour faire pression sur d'autres États avec des intérêts économiques, stratégiques. C'est absolument désastreux parce que même hors de Chine, finalement, les Ouïghours sont persécutés. Jusqu'à la France d'ailleurs, ils sont parfois victimes de surveillance, de pression, de tentatives d'intimidation aussi. Donc c'est extrêmement grave ce qui se passe, non seulement bien sûr dans le pays avant tout, on a réussi enfin avec là aussi les recherches, le travail des ONG mais aussi des journalistes auxquels il faut rendre hommage, ce consortium notamment récemment, on a réussi à faire en sorte que la Chine cesse d'être dans le déni et de prendre la communauté internationale et le monde entier pour des imbéciles, excusez-moi l'expression, puisque il était évident que de plus en plus de preuves irréfutables montraient que ces camps de soi-disant rééducation sont rien de moins que des camps d'internement ou mauvais traitement. Rééducation, ça veut dire en fait chercher à une sinisation de toute la population. On avait déjà déploré évidemment à propos des Tibétains, et là c'est la même chose, chercher à détruire à tout prix leur culture, chercher à en faire des Chinois à part entière, même si pour cela on doit passer par des traitements absolument inhumains et dégradants.
Nous nous rendons maintenant au Mexique. Amnesty International s'y engage aux côtés de José Adrián, un adolescent du sud-est du pays qui a été victime de mauvais traitements de la part des autorités. Un cas emblématique de la normalisation des violences et de l'absence de justice qui règne actuellement au Mexique, où le taux d'impunité des délits dépasse les 99% selon les statistiques officielles. Écoutez le reportage d'Alix Hardy pour France Culture.
José Adrián est un jeune Mexicain d'origine maya. Il mène une existence paisible dans son village du Yucatán, la péninsule de la côte caraïbe du Mexique. Mais un jour, à 14 ans, tout bascule pour lui. Marta Capetillo fait partie de l'association de défense des droits de l'homme Indignación, qui s'est mobilisée pour lui. Elle raconte depuis le Yucatán.
En 2016, José Adrián sortait de l'école quand il est passé à l'endroit où une voiture de police venait de se faire caillasser par des jeunes. José Adrián a une audition déficiente qui l'empêche de tout entendre autour de lui. Il est passé par là sans se rendre compte de ce qui se passait. Il a été arrêté et frappé par la police. Ils l'ont fait monter dans la voiture. Un policier l'a plaqué au sol en lui appuyant son genou sur la nuque. Une fois au poste de police, ils l'ont déshabillé, menotté et attaché en hauteur au mur, ce qui est de la torture.
Quand la mère de José Adrián se rend au poste, elle doit faire face à l'intimidation des policiers, se souvient-elle.
Quand je suis arrivée, il était menotté, il n'avait ni chemise, ni chaussures. Les policiers ont commencé à me dire que c'était un vandale, un drogué, qu'il vendait de la drogue à l'école. Adrián était là, il pleurait, il ne comprenait pas pourquoi on l'avait arrêté. Il n'était même pas au courant de l'histoire de la voiture. Le policier m'a dit que je devais payer 12 000 pesos, 600 euros pour la réparation du véhicule. Je lui ai dit que je ne pouvais pas, que je n'avais pas l'argent. Mais il m'a répondu que j'allais devoir trouver un moyen. Sinon, on ne laisse pas votre fils sortir, il a dit, comme une menace. Alors j'ai pas eu d'autre choix que de m'exécuter.
L'histoire de José Adrián est loin d'être un cas isolé.
Le cas de José Adrián est représentatif. Ici, les autorités se vantent souvent du fait que le Yucatán est l'un des États les plus sûrs du pays. Mais c'est une sécurité factice qui coûte très cher. Tu es en sécurité tant que tu n'as pas été arrêté par la police. Si quelqu'un apprend ici qu'un de ses proches a été arrêté, il a de sérieuses raisons de s'en faire.
Comment des policiers censés protéger les citoyens en arrivent-ils à violer leurs droits à cause d'une culture du résultat, explique Miguel Sarré, spécialiste du système pénal mexicain.
Ce qu'on observe là, c'est une politique du chiffre. Il existe même dans certains cas des incitations pour les policiers, des quotas d'arrestation à remplir. C'est ça qui devrait être requalifié en délit, car c'est une motivation aux effets pervers.
Cette année, José Adrián a fêté ses 18 ans. Ce qu'il voudrait, c'est que justice soit rendue pour pouvoir tourner la page.
Je voudrais qu'ils effacent définitivement mon nom de leurs archives. Et je voudrais que personne n'ait à subir ce que j'ai vécu. C'est tout ce que je demande. Que soient embauchés des policiers compétents, qu'ils aient des comptes à rendre et qu'ils travaillent mieux.
Mais 3 ans plus tard, son cas n'a pas avancé d'un pouce, constate Marta Capetillo.
Ici, les policiers savent qu'ils jouissent de l'impunité. Les jeunes courent le risque d'être arrêtés, maltraités, torturés par la police, voire même de disparaître. Les autorités ne se rendent pas compte que lorsqu'elles laissent ce genre d'action se produire, cela signifie une rupture de l'ordre démocratique. Le gouvernement lui-même protège les policiers qui ont arrêté José Adrián. C'est toute une chaîne d'impunité.
Une impunité qui prend sa source depuis les plus hautes sphères du pouvoir, insiste Miguel Sarré.
La Cour suprême confond le rôle de la justice et celui de la sécurité publique. Au Mexique, l'appareil judiciaire cherche à aider la sécurité publique, à rendre son travail plus facile, au lieu d'être dans le contrôle pour que les forces de police se professionnalisent. Pour protéger la communauté, ils acceptent de négliger les droits d'une personne. La Cour oublie la plus élémentaire séparation des pouvoirs. Durant les dernières décennies, on avait pourtant constaté une espèce de renaissance des droits de l'homme au Mexique. Mais cet élan a été stoppé net, notamment par l'explosion de la violence dans le pays, qui a changé les priorités. Depuis, on constate une régression.
La violence, le nerf de la guerre dans ce pays qui n'arrive pas à s'en dépêtrer. Comme les deux dernières années, 2019 devrait battre des records et devenir l'année la plus violente jamais enregistrée. Depuis 2006, une guerre de basse intensité se déroule au Mexique, depuis que les forces armées sont descendues dans la rue pour combattre le crime organisé. 250 000 morts plus tard, le nouveau président AMLO a lui été élu sur un discours pacifiste. Il dit qu'il refuse de combattre le feu par le feu, mais cela ne se retrouve pas dans ses décisions. Falco Ernst est analyste pour l'ONG International Crisis Group au Mexique.
Son discours et ses actions sont à l'opposé l'un de l'autre. Il est en train de rendre le Mexique complètement dépendant de ses forces armées. J'ai été surpris de voir à quel point il a facilement mis de côté toute idée de réformer la police, en déclarant que, de toute façon, elle était trop corrompue et trop peu fiable. Il a très ouvertement décidé de miser à 100% sur les forces armées.
Le président a créé une garde nationale, un nouveau corps des forces de l'ordre censé redonner confiance aux citoyens. Mais en réalité, rien n'a changé, avertit Francisco Rivas, expert en sécurité.
La garde nationale a un commandement militaire, un fonctionnement militaire et un entraînement dont on suppose qu'il sera très probablement militaire. C'est donc un corps militaire. On n'a jamais vu nulle part un corps militaire cannibaliser ainsi les forces de l'ordre civil.
Car López Obrador, fort de sa majorité au Congrès et du soutien de la population, a réussi là où ses prédécesseurs avaient échoué. Il a pérennisé cette ingérence des forces armées dans la sécurité intérieure, en la faisant inscrire dans la Constitution.
Mais si sa popularité baisse, si son parti perd son poids législatif, si le prochain président est un Bolsonaro mexicain, alors AMLO aura laissé derrière lui une structure militaire renforcée qui pourra être utilisée par son successeur à n'importe quel dessein plus sinistre.
Un an tout juste après son arrivée au pouvoir, sur les droits de l'homme, le bilan de ce président qui a beaucoup promis et peu agi est mitigé. Dans un rapport intitulé « Les paroles ne suffisent pas », Amnesty International pointe trop peu d'avancées sur le sujet. La ville de Mexico porte les stigmates de ces violations. C'est cet arrêt de bus près duquel le jeune Marco Antonio, 17 ans, a été arrêté brutalement par la police en 2018. Il n'est réapparu que plusieurs jours plus tard, amnésique et roué de coups. C'est aussi ce monument aux 43 étudiants d'Ayotzinapa qui se dresse sur l'avenue Reforma, une grande artère de la capitale. Deux immenses sculptures rouges en métal, un 4 et un 3, pour ne pas oublier que 5 ans après leur disparition, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à ces étudiants d'école rurale, attaqués dans le sud du pays par les forces de l'ordre alors qu'ils se rendaient à une manifestation. À chaque rassemblement, les parents réclament justice.
La lucha por encontrar los 43.
Nous luttons pour retrouver les 43, pour que la justice et la vérité soient faites. Tout ce qu'on a reçu, ce sont de fausses promesses et on a vu les autorités couvrir à tout prix les fonctionnaires impliqués. Avec ce nouveau gouvernement, on espère pouvoir faire à nouveau confiance aux institutions.
Ce sont enfin ces graffitis sur l'Angel, un monument emblématique de la capitale, qui disent « Ni una menos, pas une de moins » et « Stop au féminicide ». Dans un pays où 9 femmes sont assassinées en moyenne par jour, les autorités sont complices quand elles refusent de prendre les dénonciations des femmes au sérieux. En août dernier, les Mexicaines ont tagué leur colère sur les murs et les statues de la ville, en apprenant que plusieurs policiers étaient accusés d'avoir agressé et violé des femmes pendant leur service. Chaque manifestation est un message au président Andrés Manuel López Obrador. Un message qui exige de voir bientôt apparaître le changement qu'il a promis en matière de droits de l'homme dans un pays où ils ont été piétinés.
Un reportage d'Alix Hardy avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Dérive policière, dérive judiciaire. À Amnesty, Cécile Coudriou, vous avez aussi voulu attirer l'attention sur le cas d'un jeune condamné à mort au Soudan du Sud. Il avait seulement 15 ans quand il a été condamné à être pendu et vous dénoncez un procès inéquitable.
Tout à fait. Et puis en plus, en cette année anniversaire, 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant, il est particulièrement important pour nous, à l'occasion de cette opération 10 jours pour signer, de mettre en lumière le fait que certains pays, continue de pratiquer la peine de mort, même sur des mineurs. Dans ce jeune garçon avait 15 ans au moment des faits. En plus, il n'a même pas commis ce meurtre. C'est en fait un accident. Il n'a pas pu se défendre. Il n'avait pas d'avocat. Donc, c'est tout à fait typique, malheureusement, de la justice, si on peut appeler ça comme ça, dans ce pays, le Soudan du Sud. Et donc, il est très important que lorsqu'un pays a signé et surtout ratifié, c'est-à-dire rendu contraignant une convention, eh bien, il l'applique. C'est une dérive extrêmement préoccupante quand des pays, finalement, ne respectent pas leurs propres engagements. Eh bien, Amnesty International est justement là aussi pour ça, pour rappeler les États à leurs engagements. Et puis c'est l'occasion aussi de montrer aujourd'hui qu'il y a une parfaite complémentarité entre le travail de mobilisation, avec ses signatures sur le site d'Amnesty.fr, les événements dans la rue, mais aussi le travail de plaidoyer que nous faisons, nous, au quotidien. Tout à l'heure, pour le Mexique, par exemple, ça m'a rappelé en effet cet engagement que nous avons cherché à obtenir, non seulement du président lui-même à travers notre interpellation, mais aussi de l'ambassadeur en France, que nous avons interpellé sur toutes ces questions de violence policière, de militarisation des forces de l'ordre. Et donc, c'est important de pouvoir aussi avoir un dialogue constructif, et c'est important de pouvoir se montrer toute la mobilisation qu'il y a avec nous. Lorsque on a un maximum de signatures, lorsque beaucoup de gens relaient sur les réseaux sociaux, etc., toutes ces informations de pays dont on parle trop peu. Je veux dire, qui parle aujourd'hui, à part vous aujourd'hui, du Mexique ou du Soudan du Sud? Donc c'est vraiment important de le faire savoir.
Alors on va aussi parler d'Europe. Marie-Pierre Véroux, deux jeunes risquent 25 ans de prison en Grèce. Sarah Mardini et Sean Binder étaient bénévoles pour une ONG qui faisait du sauvetage au large de l'île de Lesbos. Et vous avez rencontré Sean.
Oui, et pour lui, on peut dire que le sauvetage des migrants en mer, c'est comme une évidence. Sean Binder a grandi en Irlande, où, dit-il, il est tombé amoureux de l'océan. Puis il a fait des études sur la politique de défense et de sécurité européenne. J'avais donc les clés, m'a-t-il dit, pour comprendre ce qui se passait en mer, à nos frontières, et j'avais l'expérience du sauvetage. Sean est donc parti à Lesbos, l'île grecque, l'une des principales portes d'entrée des réfugiés et migrants en Europe. Il garde en tête les images de ces bateaux débordant de migrants terrifiés de ces noyés, 19 000 au moins en Méditerranée depuis 2014. Sean a choisi, lui, de s'engager dans une ONG qui intervenait à la demande des autorités grecques et des gardes-côtes, ce qui est ironique, dit-il aujourd'hui, parce que ce sont les policiers avec lesquels je travaillais depuis plusieurs mois qui, une nuit, sont venus nous arrêter.
So what happened was at 3 a.m. one morning in February, late February.
Ce qui s'est passé, c'est qu'une nuit, à 3 heures du matin, fin février 2018, Sarah et moi étions sur le rivage, en patrouille de surveillance. Et soudain, un van rempli de policiers a fait irruption. Ils nous ont demandé nos passeports, ce n'était pas inhabituel, donc nous leur avons montré. Puis ils ont fouillé notre véhicule, ce qui était plus inhabituel. Puis ils nous ont arrêtés pour nous interroger. Nous sommes restés en détention pendant 48 heures. Ils m'ont emmené dans l'entrepôt de l'organisation où nous stockions tout notre matériel médical et l'ont fouillé, mais n'ont rien trouvé. Ils sont allés à notre domicile et ont emporté nos téléphones et nos ordinateurs. Ils ont même fouillé les sacs de farine, en quête de drogue, j'imagine, et n'ont rien trouvé. Ils ont fini par nous relâcher le temps de l'enquête et nous avons continué à travailler avec les autorités pendant plusieurs mois. Puis ils nous ont de nouveau arrêtés et durant les 3 mois et demi de détention provisoire, j'ai eu le temps d'enquêter sur les charges qui pesaient contre nous. Nous étions accusés de crimes graves, de complicité de trafic humain, de participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent, fraude, de contrefaçon et même d'espionnage. Quand vous entendez cela, vous vous dites « Waouh, c'est sérieux, les gens ont dû commettre des actes graves ». Mais nous avons étudié le dossier d'accusation. Par exemple, la police dit que je me suis livré à des activités de trafic humain la nuit du 12 décembre 2017. Mais j'étais alors en train de passer mes examens à la London School of Economics. C'est très facile à vérifier, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils disent aussi « Vous êtes un espion car vous avez eu des communications cryptées ». Cela a l'air très sérieux, mais en fait, ils font référence à WhatsApp. En fait, le dossier d'accusation est vide. Et quand vous regardez cela d'un peu plus haut, vous voyez que ça s'inscrit dans un contexte plus large. Il y a eu l'ouverture de 49 procès dans l'Union européenne contre 158 personnes, toutes poursuivies sur les mêmes charges que nous. Nous avons travaillé sur les similitudes entre ces 49 procès et nous avons tenté de les relier aux différentes législations dans chacun des pays. Et nous avons démontré que c'est un phénomène structurel. Ce ne sont pas des officiers de police qui agissent de leur propre chef, en échappant à tout contrôle, c'est une démarche concertée. Ce sont des gens qui suivent une logique fondée sur des textes écrits par l'Union européenne. Et ça doit être changé. Nous parlons de vies humaines qui sont perdues. Ce n'est pas une question de rhétorique politique. Maintenant, nous attendons toujours notre procès, et cela peut être très long. Nous sommes dans les limbes, en attendant, je l'espère, l'acquittement. Les accusations sont sans fondement, il n'y a aucune preuve, donc je pense que nous serons fort probablement acquittés. Mais en fait, ils n'ont pas besoin de prouver notre culpabilité pour considérer que leurs poursuites ont été efficaces. Parce qu'avant notre arrestation, il y avait 3 ou 4 ONG de sauvetage qui intervenaient sur le littoral à Lesbos. Et aujourd'hui, il n'y en a plus. Les poursuites ont un effet dissuasif dans toute l'Union européenne. Les gens sont terrifiés, les coûts légaux sont très importants, les procédures prennent du temps et les organisations de sauvetage ont de moins en moins la volonté de poursuivre leur mission. C'est déjà le cas et c'est pourquoi c'est si effrayant.
Quel est votre état d'esprit actuellement ?
Mon objectif aujourd'hui est de ne pas retourner en prison. Je risque 25 ans de prison. J'ai 25 ans. Ça veut dire passer autant de temps derrière les barreaux que ce que j'ai vécu libre jusqu'à présent. Bien sûr, j'ai peur de retourner en prison, mais ce qui est encore plus effrayant, c'est que n'importe qui pourrait être jeté en prison. Vous, par exemple, si vous étiez sur la plage et que vous voyiez quelqu'un qui se noie et que vous lui tendiez la main, vous pourriez vous trouver dans la même situation. C'est aussi simple que cela.
Et cet espace qui se rétrécit pour des actes de solidarité envers les migrants, la population de Lesbos le vit depuis plusieurs mois. C'est un reportage d'Angélique Gournis.
En 2015, au pic de la crise migratoire, Daphne Voulidis et son mari Yanis, un couple d'hôteliers d'une cinquantaine d'années, avaient l'impression qu'ils pouvaient changer le monde. Leur hôtel, situé à environ 5 km du camp de Moria à Lesbos sur la côte, ne désemplissait pas de clients qui, tous les matins, partaient bronzés avec de l'eau, des biscuits et des couvertures pour aider sur la route les migrants qui arrivaient alors au rythme de 500 par jour. Comme Daphne, ces touristes n'hésitaient pas à embarquer les réfugiés qui marchaient sur le bas-côté de la route pour les amener au camp, à la police ou à l'hôpital. Mais le retour de bâton pour Daphne ne s'est pas fait attendre.
Ce qui était pour moi bouleversant à l'époque, c'était ces hordes interminables de gens qui marchaient sur la route. C'est ce qui m'a conduite à transporter de plus en plus de monde avec ma voiture. Pas uniquement des personnes qui passaient devant chez moi ou que je trouvais sur ma route. Je démarrais ma journée avec la ferme intention d'aller chercher les gens qui arrivaient pour les transporter là où ils devaient aller, ce qui était illégal. Je le savais, j'en étais pleinement consciente. Un jour, on m'a arrêtée devant le centre d'accueil de Karatepe. J'ai été déférée immédiatement au tribunal, car j'avais transporté dans la voiture 11 personnes. C'était un petit van. Quelques mois plus tard, j'ai été relaxée.
À 15 km plus au sud, dans l'une des plus belles baies de l'île, la baie de Hieras, Nikos Katsouris, un pêcheur d'une quarantaine d'années, tient ou tenait plutôt avec sa femme une petite taverne au bord de l'eau. Il servait tout le monde, clients et réfugiés affamés. Mais les anti-migrants de l'île, soutenus par l'administration, l'ont mis au pied du mur.
Avant, j'avais un restaurant. Les gens venaient y manger et j'accueillais en même temps des étrangers, des migrants à qui j'offrais le repas. J'avais beaucoup de clients. Mais maintenant, je n'en ai plus. Les problèmes ont commencé avec tous ceux qui ne voulaient pas des migrants. Les services de contrôle grecs sont venus nous menacer, nous mettre la pression. J'ai accumulé les amendes, 37 000 euros au total. Et ce parce que j'apportais de l'aide aux migrants. Finalement, ils nous ont posé un ultimatum. Soit je conservais mon restaurant, mais juste avec des clients qui payent et sans migrants, soit je ne recevais que des migrants. Cela faisait 4 ans qu'ils venaient chez moi, alors le choix n'a pas été difficile. J'ai décidé d'accueillir uniquement des personnes qui mangent gratuitement. Nous avons des voitures, nous allons chercher des réfugiés dans le camp de Moria, ils viennent manger, passer un bon moment, oublier leurs problèmes, jouer, se baigner dans la mer. Ensuite, nous leur donnons des vêtements et au bout de 2-3 heures, nous les ramenons au camp. Durant toutes ces années, nous avons vu l'humanité s'évanouir. Les gens ne se sentent plus concernés, la notion même de compassion humaine a disparu. Ce que nous essayons de rendre à ces migrants, c'est un quotidien, la vie. Toute simple, l'humanité.
Cette criminalisation de toute solidarité n'est pas propre à la Grèce. Elle est commune à tous les pays qui sont une porte d'entrée en Europe, mais pas seulement. La capitaine Pia Klempt, qui doit elle-même faire face en Italie à une éventuelle condamnation de plusieurs années de prison pour avoir, malgré le refus du gouvernement Salvini, accosté sur les côtes italiennes avec plus de 100 migrants à son bord, qu'elle avait sauvé d'une noyade certaine, est venue en Grèce cet été faire le point de la situation.
En ce moment, en Italie, toute action de solidarité est criminalisée, sur terre comme en mer. On attaque les squats qui accueillent des migrants, on poursuit ceux qui leur portent secours aux frontières ou encore bâtissent des programmes sociaux qui permettent aux migrants et aux habitants de vivre et travailler ensemble. Il se passe la même chose en haute mer. Des pêcheurs tunisiens, par exemple, sont poursuivis en justice depuis des années pour avoir secouru des migrants et les avoir emmenés à Lampedusa. Salvini a même interdit l'accès au port italien à ses propres gardes-côtes parce qu'ils avaient des migrants à bord.
Cette criminalisation ne concerne pas que les activistes solidaires. Elle existe aussi pour les migrants eux-mêmes et elle est fatale.
Mais le plus important, et malheureusement ce qui n'apparaît jamais dans les médias, c'est la criminalisation des migrants eux-mêmes. Je pense à trois jeunes emprisonnés à Malte depuis plusieurs mois. Ils étaient à bord d'un Zodiac avec 150 personnes qui avaient été secourues par un bateau turc. Ce bâtiment a reçu l'ordre des autorités européennes de les ramener en Libye. Et lorsque les réfugiés et migrants se sont rendus compte que le bateau mettait cap au sud, vers la Libye, ils ont paniqué. L'équipage turc a fini par les débarquer à Malte. Et bien qu'ils aient tous témoigné que les migrants n'avaient exercé aucune violence à leur encontre, trois jeunes de 16, 17 et 19 ans ont été accusés d'avoir détourné le bateau. Ce qui se passe, c'est que les autorités essayent d'avoir des photos de toutes les embarcations, qu'il s'agisse de barques en bois ou de Zodiac, dont les passagers ont été sauvés en mer. Elles veulent voir qui tient la barre. Et quand elles disposent de ces photos, elles font porter le chapeau à ceux qui pilotent les embarcations en les accusant d'en être les capitaines. Pourtant, ce n'est pas quelque chose que les migrants font de bon cœur de tenir la barre. C'est le dernier arrivé sur le bateau qui est désigné d'office comme capitaine.
Filippo Grandi, haut commissaire aux réfugiés à l'ONU, est lui aussi très inquiet de cette criminalisation qui se durcit de plus en plus dans tous les pays. Il est venu en Grèce cette semaine s'entretenir avec le gouvernement grec.
Je suis préoccupé. Nous avons entendu des discours très négatifs sur les ONG dans ce pays, mais encore plus dans d'autres, et particulièrement dans le mien, l'Italie. Et ce sont notamment les actions de sauvetage en mer qui sont visées. Je suis très critique vis-à-vis de cette situation. Les États ont en effet tellement réduit leur capacité de sauvetage en mer, alors que c'est la plus élémentaire des obligations, que ce sont les ONG qui ont permis de sauver de nombreuses vies. Je tiens en outre à préciser que nous disposons de statistiques qui démontrent que la présence de navires des organisations non gouvernementales ne constitue pas un appel d'air, comme on l'entend souvent. Cet argument selon lequel la présence des ONG en mer favoriserait les départs ferait que plus de gens prendraient des risques est battu en brèche par nos statistiques. Il y a eu des moments où il y avait plus de navires d'ONG et moins de départs et vice-versa. Il n'y a aucune corrélation. Simplement, ces organisations remplissent un rôle vital qui doit se poursuivre et être protégé.
Odysseas Voudouris, la soixantaine, chirurgien et fondateur de la branche grecque de Médecins sans frontières, est conscient de l'aggravation de cette situation. Mais pour lui, l'humanitaire n'est que la conséquence d'une politique criminelle à l'échelle mondiale.
Η ποινικοποίηση συμβαδίζει με τη στάση της καταστολής. Αντί να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε.
La criminalisation va de pair avec la répression. Au lieu d'aller aux racines du problème, on occulte les causes de la migration parce qu'en fait on ne veut pas s'en occuper pour en traiter seulement les conséquences. Et ça avec des méthodes répressives.
Αυτό είναι πάντα μια
Les gouvernements ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Bien sûr que ces flux migratoires ne s'arrêteront jamais, quelle que soit la répression, tant que l'on ne s'attaquera pas à leur cause. Dans cette société globalisée, alors que les richesses s'accroissent et que la technologie permettrait d'améliorer la vie de tous, nous observons que les pauvres deviennent plus pauvres et que d'énormes richesses se concentrent dans extrêmement peu de mains. Cela alimente les tensions. Et tant qu'on refusera de s'attaquer au problème à la base, eh bien les mêmes causes continueront de produire les mêmes effets. Ce cercle vicieux va se reproduire jusqu'à ce qu'un jour, ça explose. Je ne sais ni quand, ni comment, mais c'est inéluctable. Je ne pense pas que l'Union européenne respecte ses valeurs fondamentales pour ce qui concerne les réfugiés, des valeurs qui figurent pourtant dans les textes qu'elle a adoptés.
Odysseas Voudouris a été secrétaire général à l'immigration sous le gouvernement de gauche d'Alexis Tsipras. Il a claqué la porte refusant de cautionner une politique migratoire qu'il jugeait inadmissible. Aujourd'hui, il s'occupe de centres pour mineurs non accompagnés et malgré la récente décision des conservateurs de ne plus donner aux migrants un numéro de sécurité sociale, le fameux AMCA, qui leur ouvrirait l'accès aux soins, il fait au sein du SAMU social qu'il a fondé son travail de médecin.
Nous avons des équipes constituées de médecins, d'infirmiers, de physiothérapeutes, etc. Et les soins que nous, en tant que SAMU social, fournissons, nous les administrons à tous, qu'ils aient ou non un numéro AMCA de sécurité sociale. Nous les soignons, qu'ils aient ou non une couverture sociale. Bien sûr, le fait qu'ils n'aient pas de numéro AMCA nous rend la tâche difficile, car il y a des soins que nous n'avons pas les moyens de leur prodiguer.
Pour faire face à cette nouvelle vague migratoire, le gouvernement conservateur grec a proposé de remplacer les camps existants actuellement sur les îles par des camps fermés. Le tollé est général dans le pays. Les maires des îles concernées, Lesvos, Samos et Chios, ont menacé de démissionner. Désengorger les îles, oui, mais pas au prix d'un emprisonnement général. Les migrants, ont-ils souligné, ne sont pas des criminels. Ils fuient la guerre. On doit trouver une autre solution.
Reportage signé Angélique Kourounis. Alors Cécile Coudriou, vous dénoncez bien sûr la criminalisation des personnes qui viennent en aide aux exilés.
Oui, et nous rendons hommage par ailleurs, je le répète, à l'engagement de ces jeunes. Quand on voit ce qu'ils risquent, Sean Bider, 25 ans de prison, et quand on voit justement le calme avec lequel il analyse la situation, un engagement basé sur l'indignation, mais aussi beaucoup de raisonnement, beaucoup de réflexion, ça force vraiment l'admiration. Et c'est pourquoi je suis certaine que bien des gens en France et partout dans le monde auront envie de le défendre et de soutenir un combat qui était absolument juste. Il n'a fait que demander le respect du droit maritime. Et à la désunion européenne, il répond « solidarité internationale ». Donc franchement, on ne peut qu'avoir envie de le défendre en signant par exemple, mais aussi en envoyant des messages de soutien.
Alors nous aurions aimé nous rendre en Iran pour évoquer le combat de Yasaman Ariani. Lors de la journée internationale des droits des femmes, cette jeune actrice iranienne avait retiré son voile et ça lui a valu d'être arrêtée.
Oui, retirer son voile et offrir des fleurs dans le métro à d'autres femmes, notamment des femmes voilées. Et donc c'est extrêmement révoltant. Et là, ça me fait penser aussi à Nasrin Sotoudeh, effectivement, une avocate qui défend aussi le droit de porter ou pas le voile et contre l'interdiction de se promener dans la rue sans voile. Et donc, il y a une répression absolument féroce actuellement en Iran. Bon, avec le mouvement social, évidemment, ça ne s'arrange pas. Mais effectivement, il est absolument essentiel d'avoir une mobilisation massive sur ces situations-là, et y compris de les soutenir moralement. C'est extrêmement important lorsqu'une personne a pris de tels risques qu'elle sache qu'on ne va pas l'oublier dès le lendemain où elle a été jetée en prison. Et donc ce sont des personnes qui sont prêtes à prendre des risques énormes, malgré leur jeune âge, là encore une fois, c'est important de le souligner. Donc c'est vraiment un devoir pour nous, c'est une ardente obligation, je pense, que de montrer notre soutien, de ne pas oublier. Et ça a marché pour Nasrin Sotoudeh une première fois, on a réussi à la faire sortir de prison. Malheureusement, elle a été de nouveau jetée en prison parce qu'elle a continué son combat et qu'elle est face à des autorités particulièrement dures. Mais nous aussi, nous devons redoubler de patience et de persévérance et continuer.
On va écouter un quatrième reportage. Cette fois, nous allons au Canada pour évoquer les difficultés des jeunes autochtones à se faire entendre, puisqu'Amnesty soutient les jeunes de Grassy Narrows qui se battent pour obtenir la dépollution de leurs terres ancestrales. Pascal Garicola.
Au Canada, Pays de lacs et de rivières, une cinquantaine de communautés autochtones ne peuvent pas consommer directement l'eau du robinet ou doivent la faire bouillir avant de la boire. Le gouvernement de Justin Trudeau s'était pourtant engagé à remédier à cette situation lors de son premier mandat en 2015. Parmi les villages concernés, celui de Grassy Narrows, dans le nord-ouest de l'Ontario, vit une situation particulièrement dramatique. 90% de cette communauté Anishinaabe subit les effets d'une contamination au mercure qui affecte notamment les poissons des rivières. Dans les années 60, une usine de pâte et papier a déversé près de 9 tonnes de ce produit très toxique dans les rivières des environs. Le mercure affecte particulièrement la santé des femmes enceintes et nuit au développement des jeunes enfants. Bill Fobister, 75 ans, vit avec les effets de ce contaminant depuis plusieurs décennies, comme il l'a confié lors d'une conférence de presse en début de semaine à Ottawa.
Mes parents ont été contaminés au mercure. Ils sont morts. Tous mes frères ont aussi été contaminés et en sont décédés. Je suis le dernier de ma génération. Mes enfants, mes petits-enfants sont aussi contaminés au mercure. Ce n'est pas une bonne chose pour la santé de ma famille. Quand vous avez absorbé du mercure, vous l'avez pour la vie. Il n'y a aucun traitement. Cela affecte vos nerfs, cela nuit à votre goût, à votre audition, à votre vision. En plus, vous devenez très vulnérable aux maladies, comme la grippe, par exemple. Je suis diabétique également. Je vois beaucoup de gens souffrir chaque jour. Une fois par mois, certains doivent aller à Thunder Bay pour se faire soigner, ce qui prend une journée. Si nous disposions au village d'un centre de traitement, ils pourraient être traités au village. Bien sûr, ils ne guériraient pas, mais au moins, ils seraient à la maison avec leur famille. On passerait un bon moment à se rappeler des souvenirs de notre vie ensemble.
Bill Fobister attend toujours que le gouvernement Trudeau construise à Grassy Narrows ce centre pour victimes de la contamination au mercure. Cela fait déjà plus de 2 ans que les discussions piétinent, comme l'a dénoncé en conférence de presse le chef de la communauté, Ruddy Turtle.
We have been at the table talking and our technicians have met.
Nous avons eu beaucoup de discussions. Nos techniciens ont rencontré les différents ministères responsables du dossier, mais rien ne bouge. On demande maintenant à Justin Trudeau de cesser de tergiverser, de passer à l'action. 2 ans d'attente, c'est très long. On devrait déjà avoir un accord et assister à la construction du bâtiment. Mais en ce moment, il n'y a rien. On est toujours à l'étape de la discussion. Ce n'est pas une bonne chose. Beaucoup des membres les plus âgés de notre communauté contaminés au mercure ont déjà disparu. Ils n'auront jamais l'occasion de voir ce centre de traitement. Ils auraient pourtant eu besoin de cette infrastructure, mais le gouvernement choisit de ne pas agir. L'autre chose qui me dérange beaucoup, c'est que les pouvoirs publics continuent à dire « Voilà le projet qu'on propose à Grassy Narrows ». C'est une attitude très paternaliste. Ils pensent qu'ils savent ce qui est le mieux pour nous, et c'est faux. Nous connaissons mieux que quiconque les besoins de notre communauté. Nous vivons ici, avec les habitants de Grassy. Nous sommes du village. Cela fait plus de 50 ans que ces gens-là souffrent de cette situation et doivent y faire face.
Élevé au village, Rodney Bruce, 25 ans, décrit la place importante qu'occupe la consommation de poissons à Grassy Narrows.
Oh yeah, like absolutely. I mean, like I always.
J'adore pêcher. J'adore la pêche. Cela fait vraiment partie de mon mode de vie et de celui de beaucoup de gens dans la communauté. Plusieurs personnes dépendent du poisson pour manger. C'est une partie importante de notre alimentation. On le mange dans les fêtes, bref, souvent. Cela ne devrait pas être un risque de manger du poisson, mais bien des personnes doivent continuer à en manger. On nous demande de limiter nos prises. C'est quand même triste de devoir le faire. Je suppose que je suis contaminé par le mercure, mais je n'ai jamais passé les tests. Je ne m'en occupe pas vraiment, car il faut passer beaucoup d'examens et avoir accès à un spécialiste. C'est difficile d'obtenir un diagnostic.
D'autres communautés autochtones font face à de la contamination à l'uranium dans l'eau, par exemple comme à Pitiganzibi au Québec. Seulement une partie du village, située pourtant à moins de 2 heures de la capitale Ottawa, bénéficie d'un raccordement aux installations de la ville voisine. Le gouvernement investit déjà plusieurs milliards de dollars pour régler le problème à travers le Canada. Mais il peine à tenir l'ensemble de ses promesses. L'opinion de Michèle Audette, elle est membre de la communauté Innu et conseillère en réconciliation et éducation autochtone à l'Université Laval de Québec.
Ça coûte cher, me dira-t-on, mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont pris avec des problèmes de santé à cause de la qualité de l'eau ou à cause des poisons qui se retrouvent dans l'eau? À moyen et long terme, ça vient que ça coûte très cher à la société canadienne et québécoise ou peu importe la région, parce qu'on va utiliser le système de la santé. On va utiliser et engorger ces espaces-là alors qu'on aurait pu prévenir. Puis en plus, on va perdre des gens. Alors, ce ne sont pas, à mes yeux, des dépenses, mais un investissement qui est nécessaire.
Malgré tout, cette femme engagée garde foi en l'avenir pour que tous les peuples autochtones aient enfin accès à une eau de qualité au Canada.
Nous sommes tellement mobilisés. C'est incroyable comment on a des gardiens autodidactes, hommes-femmes. On a des gens qui vont apprendre la science occidentale, où on a des gens qui vont créer des alliances avec ceux et celles qui ont cette connaissance technique, physique et vraiment la science mathématique, chimique et tout le reste, c'est-à-dire science occidentale, qui vont comprendre, qui vont accepter puis qui vont faire le changement d'impliquer notre science aussi, notre savoir puis notre richesse, puis d'ensemble de créer déjà là des incontournables. Alors, de plus en plus, là, ce monde-là de la recherche ou de la science savent que, oups, si on parle d'eau, je peux pas le faire sans la pleine participation des peuples autochtones qui habitent le territoire, qui vivent le territoire, qui nourrissent ou qui sont nourris de certaines manières ou de toutes les manières du territoire. C'était pas là, ça, il y a 10-15 ans. Là. C'était pas là. Donc, on le sent, là, ça. Grâce à nos guerriers pacifiques, à ceux qui brassent, à ceux qui dérangent, à ceux qui vont en Cour suprême, ceux qui vont aux Nations unies, ceux qui s'installent dans des institutions pour infiltrer de l'intérieur ou éduquer de l'intérieur. Alors ça, oui, moi, ça... Ouais, ça me soulage. C'est encourageant.
Les Autochtones attendent du gouvernement de Justin Trudeau qu'il concrétise ses promesses de mettre en place des infrastructures adéquates le plus rapidement possible. Le Premier ministre a fait cette promesse. En 2021, toutes les communautés autochtones du Canada devraient disposer d'eau potable de qualité.
Pascale Guéricola, correspondante de France Culture au Canada. Le dérèglement climatique, c'est un sujet dont Amnesty est amené à s'emparer, Cécile Coudriou.
Tout à fait, c'est un sujet qui est totalement lié aux droits humains, avec le premier droit qui est celui à la vie, mais aussi à vivre dans un environnement sain, le droit à l'accès à la santé. Donc le cas de Grassy Narrows est tout à fait emblématique de la montée en puissance effectivement de cette question, mais aussi du fait qu'on ne prend pas seulement pour cible les États, mais également les entreprises. Les responsabilités des entreprises en matière de droits humains sont aussi un sujet majeur pour nous. Ça n'est pas un sujet nouveau, mais c'est un sujet sur lequel on revient de plus en plus. On l'avait fait par exemple avec Shell au Nigeria, avec une pollution dévastatrice aussi. Et dans le cas de Grassy Narrows, effectivement, le mercure prive ces personnes de leurs moyens de subsistance. Mais on voit là aussi à quel point la mobilisation est de plus en plus présente. Ces personnes refusent de se laisser faire, refusent d'être dans la passivité. Donc c'est ça aussi qui donne espoir. Et ça illustre donc également un autre aspect de notre travail qui est moins connu, qui est de venir en appui, en fait, à des mobilisations préexistantes sur le terrain, avec des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes moyens, notamment des populations autochtones ou des populations pauvres, comme c'était le cas dans le delta du Niger, où nous sommes allés jusqu'au contentieux. Nous avons mis Shell devant la justice avec des premiers résultats. Donc là, c'est vraiment une double pression. D'une part sur l'État, qui ne fait pas assez malgré les promesses, et d'autre part sur ces entreprises qui doivent prendre leurs responsabilités lorsqu'elles ont totalement détruit l'environnement. Et pour le dérèglement climatique plus généralement, nous avons effectivement rejoint le mouvement des marches pour le climat. Nous cherchons à en faire entendre ce message spécifique. Il y a vraiment un enjeu de droits humains extrêmement fort à faire entendre. Et c'est extrêmement réjouissant de voir aussi que les jeunes sont très mobilisés sur cette question-là. Et donc nous allons toujours les appeler à nous rejoindre, bien sûr, là-dessus aussi.
Alors, on a parlé de beaucoup de pays, hein. N'oublions pas la France.
Ah oui.
Vous interpellez le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, pour que cessent les pressions et les violences contre ceux qui se rendent dans des manifestations, non pas pour manifester, mais pour s'y assurer que les droits humains sont bien respectés.
Les observateurs, effectivement, c'est reconnu en droit international et ça montre que malheureusement, il y a des dérives aussi en France. Et donc, il est important de rester vigilant également, ne pas croire que ces droits sont acquis. Il est important au quotidien de vérifier que le droit de manifester, le droit de s'exprimer tout simplement, reste absolument protégé en France. Et donc là, le cas de Camille Allu nous a préoccupés également. C'est une jeune femme de la Ligue des droits de l'homme qui a simplement observé des manifestations et qui pour cela est persécutée. Donc c'est tout à fait...
Alors persécutée de quelle manière ?
Eh bien d'abord intimidée, insultée pendant ses observations, mais également poursuivie en justice. Donc c'est dans quelques jours, le 12 décembre, qu'on aura un résultat pour son procès. Et donc nous voulons là aussi appeler les citoyens et les citoyennes à la défendre avec nous, à la soutenir publiquement, parce qu'il est important que chacun réagisse dans ce genre de situation. C'est toujours la passivité finalement qui fait gagner un gouvernement qui commence à dériver loin du respect des droits. Donc ça illustre vraiment qu'en France aussi, le droit de manifester lui-même est parfois mis à mal. Et il y a également la criminalisation de la solidarité qu'on a vu tout à l'heure avec, par exemple, les personnes qui défendent les migrants. Tout cela est vraiment une dérive préoccupante. Et notre mission à Amnesty International est aussi de s'occuper de la France. Évidemment, on préférait ne pas avoir à le faire et se concentrer sur l'Iran, l'Arabie Saoudite ou l'Égypte, comme on l'a vu aujourd'hui, et bien d'autres pays. Mais nous ne devons pas, justement, faire abstraction de ce qui se passe en France. Notre impartialité nous oblige à voir toute situation avec le même regard, le même prisme des droits humains. Donc ça a du sens d'appeler les citoyens, encore une fois, je le dis, à nous rejoindre, à venir sur notre site amnesty.fr, à venir nos événements, et notamment le 10 décembre à la Gaîté Lyrique. On vous attend nombreux. Il y aura plein de choses à faire pour les droits humains.
Merci Cécile Coudriou.
Merci à vous.
10 jours pour signer, la campagne d'Amnesty International se poursuit jusqu'au 16 décembre. Signer pour sauver des vies, grand reportage à 4 voix cette semaine, avec Alix Hardy au Mexique, Angélique Kourounis en Grèce, Martin Roux en Égypte et Pascal Guéricola au Canada. Coordination Marie-Pierre Véraud, réalisation Annie Bro, avec Marie-Claire Oumabadi à la technique. Vous pouvez, comme d'habitude, réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.